Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Incroyable! Cette semaine, les lutins parlent de compilation et de Big Shiny Toons. Ils vous parlent du jeu Rally 500 comme une superbe suggestion cadeau. Les lutins vous parlent du mystérieux Joseph Forêt-Lapointe. Et du côté des potins, la chanteuse de Nightwish pue de la gueule, tandis que Steve Souza fait bouillir ta bière lorsqu'il chante. Pour la dernière fois de 2021, vous écoutez les lutins de l'enfer!
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey, salutations à toutes et à tous. Bienvenue à ce tout nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O en compagnie des festifs Lutin K et Lutin D. Comment allez-vous?
Très bien.
Pas tant festif. Moi, pas tant festif. On s'en va aux travaux forcés du Père Noël.
J'essayais de nous mettre dedans pour faire à croire qu'on était festif, mais force est d'admettre que ça marche pas.
Mais même en intro, t'as dit « hey, hey » au lieu de dire « oh, oh ».
Ho, ho, ho. Tristement, le dernier épisode de la saison.
Déjà. Ça fait-tu un an? On a commencé en hiver passé, je crois. Je ne sais plus quand.
Je pense qu'au mois de février.
Ouais.
Le pilote.
Parce qu'on parle du pilote, le pilote.
Okay. Première saison terminée, deuxième saison à l'horizon.
Ouais, HBO nous ont approché.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a été confirmé? Est-ce qu'on a signé pour une deuxième saison? J'ai pas parlé à mon agent récemment.
Entendu dire que le film sur les lutins, ça va être Michael Bay qui allait réaliser ça. Ça risque d'exploser studio.
C'est ça, j'allais dire. Il y a des explosions partout, des cadeaux qui explosent.
Michael Bay, si tu passes ces films à la vitesse normale, le film dure 30 minutes. Mais sinon, c'est 2h30 avec toutes les ralentis qu'il y a. Ça me semble un ratio juste.
Mais j'ai pas vu tant de films, je crois, moi, de Michael Bay. C'est lui qui a fait le film là, avec une explosion dedans puis un bateau. Là, Rihanna jouait là-dedans.
Rihanna joue dans des films?
Ouais, c'est ça, je voulais dire.
Elle jouait dans Battleship.
Ah.
Oui, le jeu de société, ils ont fait un film. Non, pas Anaconda. Mais oui, le jeu de société Battleship, où ce qui se passe à rien, ils ont réussi à en faire un film.
Et...
Incroyable. Quand le film sur Rally 500?
À quand, oui. Rally 500. J'ai des idées, des projets prochainement pour notre chaîne YouTube des lutins, là, avec la collaboration du lutin D ici présent et des lutins aléatoires qu'il va avoir pour ça, des présentations de jeux poche, de jeux société poche avec un petit extrait de gameplay pour montrer tout l'excitement qui peut en découler. Rally 500 en fera partie, c'est officiel.
Mm-hmm.
Mais on dit un jeu poche, mais j'avoue que je pense que j'ai rarement autant ri. Je vois un jeu de société que Rally 500.
Ouais, j'ai joué beaucoup trop souvent dans ma vie pour le jeu, mais j'ai hâte d'y rejouer.
Une des meilleures fois, je pense, c'est avec mes amis de Saint-Sauveur. On jouait, puis là, tu sais, la fille était comme visiblement là, fatigué. Voyons, c'est quoi ce jeu-là? Ça mène nulle part, mais tout à coup, il est arrivé quelque chose d'absurde, puis là, c'est décollé, elle s'est mis à rire. Là. Ça n'a plus arrêté après.
Alors, c'était un beau jeu. Pour les auditeurs qui ne savent pas qu'est-ce que Rallye 500, c'est un jeu de rallye. Et on peut pas vraiment vous en dire plus parce que même les concepteurs du jeu, ils savaient pas trop quoi dire de leur jeu.
Non, c'est ça. C'est vraiment le fun, mais c'est ça. Il y a des genres de loops sans fin. Tu peux rester pris à certains endroits. Des fois, ils te demandent de payer des montants dans des coupures que tu ne peux pas payer. Mais c'est ça.
Il y a une pièce. L'exemple, ça, il y a une place qu'il faut payer 12$, mais la plus petite coupure est le 5$. Donc. Arrangez-vous comme vous pouvez.
Ouais, il en manque un peu de proofing de ce jeu.
Ben, c'est un des rares jeux de société que tu peux tomber game over et ne pas finir le jeu.
Ouais, c'est vrai. tu peux gagner en étant le last man standing.
Ah, ouais, c'est ça. Tu peux faire last man standing. Mais ça, c'est le jeu souvent. Que la proportion, il y a un croisement dans le jeu, un Yale. Et une direction qui tu fais juste tourner en rond puis il se passe rien. Puis l'autre, tu risques d'aller directement vers la fin et tu risques de tomber game over. Et la proportion, le pourcentage de monde qui passe par ce chemin-là, absolument, ils tombent tous game over. Très peu ont passé le chemin.
Oui, oui. Un classique. Malheureusement, essayez pas de le trouver. C'est pratiquement introuvable.
Ouais, c'est quelle année ce jeu-là?
Je ne sais plus, faudrait je vérifier le règlement, mais ça doit être un jeu 2005-2006.
Si récent que ça.
Non,
je décale. 80, non? Genre début 80.
Bah, dans le
il
n'y
a pas de dessin en arrière de la boîte, hein?
Ah non?
Non, ça, c'est une boîte pleine en arrière, puis les règlements, n'oublie pas, c'est une feuille dactylographiée de règlement.
Oui! Oui.
Le seul moyen de contacter la compagnie, c'est par casier postal.
Oui, il y a peut-être un numéro de pagette, là, qui...
Hey, il y avait tellement pas de budget qu'ils ont pris une imprimante à rouleau.
Puis ils ont pas enlevé, ils ont pas découpé les trucs, c'est compté. Ils ont ouais, laissé... Mais bref, c'est ça pour Rallye 500.
Est-ce qu'on a de la musique aussi pour ce dernier épisode?
On a de la musique, mais oui. Vu que c'est le dernier épisode, on a fait un petit spécial aussi, vidéoclip qu'on a mis sur la chaîne YouTube. On va mettre ça live là, en même temps que l'épisode, fait que vous pouvez aller voir ça aussi. Puis, petite parenthèse.
C'est ça, des suggestions cadeaux, tu sais, Rallye 500, un cadeau maintenant, allez voir nos vidéoclips. C'est ça, on est dans l'abondance.
Ouais, faites-vous des cadeaux.
Ça se met bien en background d'un party de Noël à 20 personnes maximum, là, fait que...
Vous êtes à 20, vous autres? Moi, j'ai entendu parler de 10, mais bon.
Non, c'est encore à 20. Non, c'est à 20 de Drummond aussi.
Dans ma famille, on est 3, fait qu'on n'est pas trop stressé.
Ouais.
Ça fait encore du buffer.
Un peu plus stressé le jour de l'an, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, fait que je me suis fait un petit cadeau. Dernière émission, j'avais ça qui traînait dans ma liste de « Ah, j'aimerais ça en faire jouer, puis ça donne jamais. » Mr. Bungle, tiré de l'album « The Raging Rat of the Easter Bunny Demo », sorti en 2020, qui est un super band. On en a déjà parlé dans un vieux podcast. Un ancien podcast. C'est un paquet de gens connus là-dedans. Donc, j'ai choisi la pièce Bungle Grind parce que j'ai envie de me faire un Bungle Grind. En train de jouer à Tony Hawk, c'est sûrement une pause de skate ou quelque chose, le Bungle Grind.
Tony Hawk.
Caché.
Je tiens à préciser que je maîtrise même pas le kickflip à Tony Hawk, donc.
Toi, tu maîtrises, là, je regarde puis je tripe ça amuse pendant que quelqu'un joue.
Ouais, non, j'ai du fun à regarder du monde jouer à Tony Hawk, mais j'ai zéro talent. Pourtant, c'est un jeu de sport et de combo, mais on dirait que je suis pas capable.
Arrive.
Un jeu de combo que t'es bon dedans, dis.
Ouais, pas tant.
Non, ok.
Ouais, je suis pas capable de faire des très gros scores. Big est meilleur que moi, 100 fois mieux. Mais bon.
Dans tout ce genre de jeu-là, Big est bon, anyway, là.
Ouais. Il fait ça les yeux fermés.
Quand, dans le temps, l'arcade à Drummond, quand il rentrait un nouveau Guitar Row ou Guitar Freak à l'époque, il s'empressait d'aller pour. Il met toujours les 20 meilleurs, ben il s'arrangeait avec des 20 premiers. Là.
Mm-hmm. Il allait pulvériser ses records, il checkait à chaque semaine. Bon, il y a quelqu'un qui m'a battu. Ah, il y a une liste qui m'a battu. Il est tellement bon qu'il fait toujours par exprès pour le battre par un point. À chaque fois qu'il y en a un qui va te lancer, il fait voyons, Chris, je me fais tout à retlancher par un point. Ça serait tellement chiant.
Machiavélique.
Fait que pour en revenir à mon petit bloc, j'ai mis tout un autre bloc de vieux routiers. Un Exodus. Hey, je suis resté surpris. Notre ami Steve Zitro Souza, qui est dans le band, de retour. J'avais manqué l'album précédent, mais tu sais, moi j'aimais beaucoup l'album Tempo of the Damned, puis j'ai toujours dit que cet album-là, j'aimerais tellement ça l'avoir en instrumental parce que je ne suis pas capable Zitro Souza,
Carlis, capable.
Puis il était dans le band, il s'est fait mettre dehors pour Lack of Commitment, après ça il est revenu pour faire Tempo of the Damned, il s'est fait remettre dehors pour Lack of Commitment, fait que moi je m'étais dit, bah ben voilà, c'est fini, et non, il est revenu, c'est ça, il est revenu sur l'autre album d'avant, je savais pas, j'avais pas, ça m'a complètement glissé sous le nez. Puis, il est encore là aujourd'hui, fait que jamais 203, mais là, il a peut-être compris le message, puis voilà. Mais l'album est quand
pas,
même très, très
le bon. Vocal, moi, sûr, moi, la pièce de mise, j'ai bien aimé, mais le vocal, ça reste pas le fun à endurer, là.
Non, c'est ça, c'est... S'il existe une version instrumentale, je vais essayer d'aller me la chercher. Mais c'est ça, sinon, Exodus, c'est sur la grosse, grosse coche, fait que... On va entendre la pièce. C'est R-E-M-F. C'est tiré de l'album Persona non grata. Puis je sais que moi, j'ai les verres d'oreilles faciles, mais si vous êtes comme moi, vous entendez une toune de madame. Puis vous êtes vieux.
OK. Non, mais je disais, imaginez le chanteur d'Exodus chanter dans un groupe de power metal, comment ça serait insupportable.
Oh, oups. Non, non. Tu peux pas te produire d'une place qui a des vitres, là, c'est impossible. Que des scènes extérieures verts en plastique, un kilomètre à la ronde, on prend pas de chance.
Il fait bouillir ta bière dans ton verre.
Mm-hmm. Ses vibrations vocales font bouillir.
Bon. D'accord, on va aller écouter ça.
Mr. Bungle, précédé d'Exodus de l'album Persona non grata. On vient d'entendre une pièce de bénédiction de l'album Scriptures sorti en 2020. La pièce Stormcrow. Mon biaisé top de l'année Spotify me dit que c'est un des bands que j'ai écouté le plus. Oui, j'ai écouté beaucoup cet album-là. Il est biaisé parce que j'écoute encore ma musique pas mal en physique, mais quand même, très très bon album.
Moi, il faisait pas partie de mon top 5.
Ah non?
Non.
J'ai commencé à penser à mon top 5 2021. Ça risque d'être un peu comme un fromage suisse, mais ça va être bon, mais il va avoir des trous.
Moi, je pense m'en tenir à qu'est-ce que j'ai écouté en 2021 plus qu'à les nouveautés de l'année parce qu'il n'y a pas grand-chose.
T'as écouté des choses quand même?
Oui, oui, j'ai écouté, mais pas tant d'albums complets de 2021.
OK. C'est drôle parce que je me sens... T'sais, je me servais, tu sais, je jouais un peu de bass par temps perdu, puis j'ai comme 5-6 tunes d'Amon Amart que j'aime bien jouer, fait que dans mon top Spotify, j'étais comme dans le top pourcent, 1% du monde qui écoute Amon Amart au Canada. Fait que c'est ça, c'était plus ou moins représentatif, là, parce que je mets tout le temps les mêmes tunes, fait que c'est ça, c'était plus ou moins représentatif, mais bon, j'ai peut-être un argument si je veux faire venir Amon Amart à ma fête.
Moi, ça a été ectomorphe. Ouais. Pied d'Hongrie. Ouais, pour 1400 minutes d'écoute, j'écoutais du Ectomorph cette année.
C'était mindé.
Ben, j'ai fait mon Nota Bene d'Ectomorph, puis tu sais, ouais. Le lutin grec, il aime quand même beaucoup Soulfly. C'est que par la bande, il va aimer Ectomorph. Et souvent, quand on joue avec nos battes ensemble, ça, c'est jouer au hockey, là, pour ça, on lance les lignes. On aime bien ça, mec du ectomorphe, un bon ben hongrois en arrière-plan, là.
Mais ouais, je vous avais proposé initialement de faire que le dernier show de l'année soit le top 2021, mais finalement, j'ai bien fait de vous écouter et de pas trop insister parce qu'il y a pas mal de bons stocks qui sont sortis récemment. Je me suis fait avoir dans ma propre compilation que je fais à chaque année.
Bon.
Depuis longtemps, je fais le Best Tunes. Ça a commencé quand on était au secondaire, je faisais ça sur une cassette. Ce qui est drôle, c'est l'évolution du format. Fait qu'au début, c'était une cassette que je tapais par-dessus à chaque année. Là, à un moment donné, j'ai gardé l'ancienne. Ouais, à un moment donné, j'ai gardé l'ancienne. Je faisais une petite couverture à l'ordi. Puis là, un jour, j'ai passé au CD. Mais je sais pas vous, mais moi, quand j'étais au secondaire, il y avait une personne dans notre gang qui avait un graveur CD, puis on y passait toutes nos commandes.
Oui, parce qu'il s'appellerait un C.
Non,
oui, c'est...
Ah, oui, mais moi aussi, c'est un C. C'est toutes les
C. Ouais? C'est les C qui avaient les graveurs. Fait que, ouais, ça donne des drôles de choses comme une toune qui vient d'une radio, fait que t'entends le disc jockey en avant. Fait que...
mm-hmm. Vive les mixtapes.
Mais t'as déjà fait un bon vieux mixtape de François Pérusse à l'époque du secondaire. Ça, j'ai eu de la peine quand la cassette a brisé parce qu'il était vraiment très, très, très bon. Je sais que Lutin Big avait bien aimé aussi.
Ah, t'avais mis tous les meilleurs moments, là.
Ouais, ben tu sais, remis des fois dans des certains ordres, là. Non, c'était cool, là. C'était bon.
Les Best Tunes, j'avais laissé des un jour, j'ai été capable de les graver moi-même. Puis là, après ça, ça l'a changé à une liste MP3, évidemment. Puis maintenant, mm-hmm. C'est rendu une playlist Spotify que je pourrais partager. Incroyable.
Moi, j'ai pas mal arrêté mes compiles quand j'ai abandonné le CD.
Ah ouais.
Je le faisais en MP3, mais je l'ai regravé après ça pour les donner aux chummies là, qui mettent ça dans leur char, etc. Mais quand j'ai fini le sport CD, bref, quand je me suis ramassé Spotify, c'était fini les compiles.
Mm. C'est dommage parce que c'était des compiles de fun.
Ouais, c'était amusant à faire. Mais sauf que la première année que j'avais Spotify, je pense que je me suis trop gâté, j'avais pas mis de limite. Fait que j'ai la compile, puis j'ai un bonus Digipack en prime. Fait que là, il y avait trop de choix. Là, j'ai essayé de me limiter à 25 tunes que j'essaie de garder parce que c'est ça, sinon, ça finit plus.
Moi, ça a toujours été 18. Il rentrait 18 tunes sur un CD. Ça fait que je m'arrangeais à avoir des tunes qui fit. Des fois, il y a des tunes qui étaient bien bonnes de 7-8 minutes. Je les skippais parce que je voulais avoir 18 tunes sur le CD. Fait que. Il y a toujours le mot violence dans le titre.
Ça prend ça.
Sail on Violence, Violence Fest. C'est quoi les autres qu'il y avait? Sexe, violence et mince aux légumes.
mon titre préféré.
Fait que c'est ça, pour le prochain bloc, je vous propose trois pièces que j'ai retenues à date dans le Best Tunes. Je suis rendu à 26, je pense.
Fait que, bon, déjà, tu coupes.
Non, Best Tunes numéro 26, fait que c'est la 26e édition.
Okay. Oh.
Fait que, ben c'est ça, il y a plusieurs tunes qui sont arrivées récemment, fait qu'il va falloir que je fasse une écoute finale, mais il y a des bonnes chances que celle-là en fasse partie. Tribulation, on n'en a pas fait jouer à l'émission encore. Évidemment, j'ai essayé de mettre des pièces qu'on n'a pas jouées à l'émission. C'est un band que j'avais jamais écouté avant cette année, mais j'ai beaucoup aimé leur album de 2021 qui s'appelle Where the Gloom Becomes a Sound avec la pièce Léviathan. C'est leur 5e album. Puis on dirait que ce band-là, je ne sais pas si vous les connaissez un peu, mais il semble avoir passé à travers différentes phases. Du moins, quand je regarde...
Moi, je connais en fait leur 3e album. Je me souviens pas exactement du nom, mais c'était un peu plus black que qu'est-ce que tu as fait jouer là. Moi, j'avais adoré cet album-là. C'est pour ça que quand j'ai vu passer le nom, j'étais curieux, mais j'avais bien aimé cette pièce-là, mais c'est un peu plus smooth que qu'est-ce que je connaissais. Là.
Ben c'est ça. Il semble avoir commencé en thrash, après ça en death, là, black, comme tu dis, il y a une phase. Là, c'est plus gothique un peu. L'album me faisait penser à Dark Tranquility un peu. Là. Fait que quand même bien aimé. Il y a une petite pièce au piano même. C'est bizarre, on entend comme le banc craquer. Fait que je sais pas trop comment ils ont enregistré ça, mais bon. C'est...
Oh.
Ça reste un bon album, je vous le conseille si vous l'avez pas écouté encore. Et après ça, ça va être suivi de Elaine. J'ai hésité entre... J'aime bien le style symphonique, fait que j'ai hésité entre quelques bandes, mais je trouvais qu'Elaine ressortait particulièrement à cause de... Il était quand même énergique, je trouvais qu'il y avait des bonnes riffs. Ce type de band-là a tendance à tomber facilement dans le plus mou. Je trouvais que Elaine réussissait bien à garder des bonnes riffs malgré tout. Puis, non, c'est ça. La chanteuse aussi est assez convaincante. Madeleine. Madeleine, qu'elle s'appelle?
Madeleine Hélène. Madeleine Hélène. Moi, Madeleine.
Non, c'est Elaine, mais je me dis que Madeleine, quelque chose. Bref. Allez voir, elle est assez convaincante, beaucoup de charisme.
Ça a l'air de juste parler de tonton, cette histoire-là. Allez voir. Hey,
non, non, moi je parle de son aura, de sa personnalité, et sa voix est très bonne aussi. C'est un band assez récent, les dates de 2011 seulement, c'est leur troisième album, Dancing in Hell, techniquement sorti en 2020, mais en fin 2020, fait que j'avais déjà sorti Best Tunes. Donc ils sont éligibles pour cette année. Alors, je les embarque.
Comment que le bouton de son décolleté est fait pour tenir? C'est un mystère.
C'est la NASA qui l'a fabriqué.
Car elle est tombée sur un visuel. Ouais, voilà. Elle est aussi modèle à temps partiel qu'on dit. Alors, voici Elaine, mais tout d'abord, Tribulation au lutin de l'enfer. On vient d'entendre la pièce de Jason Beeler and the Baron von Bilski Orchestra. J'ai bien dit ça. Avec leur album, avec un extrait de leur album Songs from the Apocalypse et la pièce Bring Out Your Dead. Beaucoup aimé cette pièce-là. Et ça a d'ailleurs été fait en collaboration avec notre ami Devin Townsend. Il est un guitariste invité sur la pièce. Townsend disait qu'il évite généralement les guest appearances, mais il a fait une exception pour Beeler parce qu'il l'a vu, semble-t-il, quand il avait 18 ans, puis il a été une source d'inspiration depuis ce temps-là. Fait que Beeler est un producteur aussi, donc c'est un vieux de la vieille. Il a fait partie du groupe comment ça s'appelait? Zygon. En tout cas, il était dans un autre groupe dans les années 90. Ah oui, Zygon Kick. Je vois ici.
Il n'y a pas des nouveaux Timbits à savoir de lui, là?
Des quoi?
Les Timbits, là. Les T-Beeler.
Non, c'est Beeler. Ça s'appelle les Bieber.
OK. Non, des Timbibs, que ça s'appelle.
OK. Ouais. OK. Non, ben, pas mal bonne la pièce. L'album au complet était inégal, mais bon, voilà, la pièce, je l'ai trouvée excellente. Donc, à suivre, vous aurez, je vais sans doute partager l'incroyable Best Tunes lorsqu'il sera prêt pour les fêtes.
Parfait.
Pour le Boxing Day.
Pour le Boxing Day. Avant, je faisais la blague disponible dans tous les postes de traite près de chez vous.
Les postes de traite. Tous les baies du son, t'avais un comptoir, là.
Ah ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus facile grâce aux réseaux sociaux, là.
Ouais, qu'aller se faire chier à vendre à la baie du son.
Fait que Lutin, tu disais que les Canadiens ce soir perdaient 2-1.
Non, ils mènent 2-1 présentement.
Ah, 2-1.
Contre l'équipe des Timbits. C'est pour ça que c'est surprenant.
Non, ils jouent contre Tampa Bay. Ça fait que c'est ça, hein, quand t'es dans les bas-fonds, tu causes des surprises une fois de temps en temps. Ils vont peut-être être la surprise pour le Lightning ce soir.
Mais Tampa ont dû. Ils doivent juste jouer leur quatrième ligne, là, puis avec des. Ils ont amené leur club école pour leur donner de l'expérience.
Là. Ben, je sais pas, parce que Montréal, présentement, 70% du salaire de l'équipe est à l'infirmerie.
Ouch.
Ah non, la liste c'est est incroyable.
Que... Allez-vous faire un super débat 110%?
Oh, t'as-tu envie, Lutin, qu'on fait un débat?
Ah, moi, je suis partant.
Bon, ben, moi, je vais aller pisser.
Bon. OK, les amis, êtes-vous prêts? À go, on s'obstine!
Donc, ouais, Bergevin éclairé, Timmins éclairé.
Timmins.
Paul Pichet, ouais. Là, je sais plus c'est qui l'autre, là, qui a été éclairé et tout. Mais, bref, je suis déçu pour Bergevin.
Qu'est-ce que tu penses?
Timmins, il était plus que temps.
Eh, hey, moi, je pensais que tu serais... J'étais convaincu que tu serais un ardent défenseur de Timmins.
Eh non, malheureusement, comme toi, tanné de Timmins.
Mais pourtant, c'est pas toi justement qui disais que quand tu compares aux autres clubs, c'est pas si pire. Pis...
Pour les choix de ronde éloignée, oui, pour les premiers choix, c'est catastrophique. Mais dans les faits, à partir du 10e choix, c'est toujours tel quel. Il y en a beaucoup qui reprochaient, exemple, il y avait un vieil exemple bidon, mais André Costetine, qui à Montréal l'ont repêché, ils ont ça. Ah, mais là, ils ont repêché Costetine, il y avait plein d'autres joueurs de disponibles. Ouais, mais au moins Costetine, même s'il était plus ou moins fiable, il a réussi à faire dans la Nationale quelques années, connaît une bonne saison à Montréal. Tandis que les Rangers, cette année-là, ils ont repris un gars qui s'appelle Hugh Jessiman, qui n'a pas donné un coup de patin dans la Nationale. Là. Mais ça, on n'en parle pas. T'sais, ils disent, attends, à Montréal, là, ils ont passé par-dessus Braden Point à Tampa Bay. C'est un choix de troisième tour. On a passé devant trois fois sans le prendre. Ouais, puis il y a plein d'autres clubs qui ont fait pareil.
Non, c'est ça. Ça, c'est toujours facile de dire en hindsight is 2020, comme ils disent en anglais. Là.
Mais bref, c'est que c'est. Non, Timmins, le problème, c'est je pense toujours dans le profil de joueur recherché. Ils prennent toujours des gars, il est frisé, il a de l'air gentil, on va le prendre, tu sais, donné. Arrête de prendre des gentils géants frisés, c'est pas ça qu'on veut dans le club.
Ouais, non, le... Son historique est clairement pas reluant.
Il y a eu des bonnes années, mais ça fait vraiment longtemps que ça passe plus rien.
Ouais. Puis Bergevin, overall, c'est quand même. Je trouve son séjour a été mi-figue, mi-raisin.
Non, moi, je pense que dans l'ensemble, il a fait beaucoup plus de bons coups que de mauvais coups. Il y a eu des problèmes d'ego. On va y aller, je pense, avec le fameux départ d'André Markov. C'était une question d'ego. Avec Radulov, c'était une question d'ego. Mais dans les faits d'Ano, on pourrait quasiment avec une question d'ego aussi. Mais les joueurs que tu allais chercher pour rien, tu sais, justement à Dano, des gars comme Petrie, qui ont dit, ça n'a rien coûté. Le retour sur Pacioretty, alors qu'il voulait ouvertement quitter Montréal, le retour était incroyable. Donc non, il a fait quand même des bons trades, là, Bergevin. Les signatures d'agent libre, c'est peut-être la faiblesse. On s'entend que quand on regarde les Semin ou autres créatures louches là, qui avaient signé Emski, c'était pas Osner, c'était pas génial. Mais il en a refait des bonnes en deuxième dans la deuxième partie de son mandat. Mais il avait perdu un conseiller important. Est-ce que c'était vraiment lui ou son conseiller qui conseillait mal?
Ouais. Ben, Petrie et Pistol, l'année passée, c'était... Des bonnes signatures, là. Ils ont vraiment bien complété Perry. L'équipe.
Perry ouais. C'est une signature, puis Stahl, c'est un échange.
Ben, c'était des bonnes acquisitions.
Ouais, ben, on dirait qu'un autre qu'on a tendance à oublier, mais Marco Scandella. On a eu Marco Scandella contre un quatrième choix à Buffalo, puis on l'a renvoyé à Saint-Louis contre un deuxième choix. Fait que, c'est des petits trucs de même, là. Qui était bien.
Ouais.
Ben, c'est sûr que... Ah, on n'a pas
J'en
fini.
On avait des litres et des litres.
Mais,
puis, avez-vous refait les lignes de tous les joueurs?
Non, non, on parlait de voilà une couple d'années. Là, on n'est même pas encore à sujet actualité.
Ah non, OK, vous êtes encore dans à recenser le passé.
Ben, Montréal, ils font
moi,
ça depuis toujours.
Team démocratique.
Tu veux dire?
Il y a tellement de gérants d'estrade là, que moi, je ferais une team démocratique. Il y a un repêchage à faire. Tu sais, t'as une app, là, tu sais, puis au repêchage, il faut que ça aille vite. Bon, ben, t'as deux minutes pour voter, OK, nanana, puis c'est tout par vote du public.
Ça serait nice.
Le public sait tellement comment faire pour que ça marche que moi je m'arrangerais pour
que le public... T'aurais pas le choix de fonctionner.
Je suis même surpris que Vegas n'ait pas fait ça avec les Golden Knights. C'est un gamble, là. Ça a été écœurant. Leur repêchage, là, c'est les fans qui repêche le club. Ouais, finalement, ils se rendent compte qu'ils ont trop de contraintes salariales, ça marche pas.
Mais moi, j'ai un scoop pour vous. Je connais la vraie raison pourquoi Montréal ont congédié Bergevin au moment qu'ils l'ont fait.
Ah oui, vas-y donc.
C'est pour faire ombrage à l'autre équipe professionnelle de Montréal, les Alouettes, qui ont tristement fini leur saison ce dimanche et la journée même, juste pour être sûr qu'il n'y ait aucune couverture médiatique. Oh, on va congédier Bergevin juste pour les écœurer. C'est clairement un move comme ça.
D'accord, c'est que les Alouettes ont terminé.
Ils ont perdu, mais c'était le moment qu'il aurait pu avoir une couverture, tu sais, la fin de la saison des Alouettes. Mais non, même pas.
C'est ça qui est terrible à Montréal, hein? C'est la couverture. Tous les journalistes font juste parler des Canadiens. On en parle nous-mêmes, tous les médias en parlent. T'écoutes la poule aux œufs d'or, ils réussissent à nous en parler. Il y a un gars à poule aux œufs d'or qui a gonflé sa vie à parler des Canadiens.
La poule, l'œuf ou le goaler. Change à goaler.
Qu'est-ce qui est caché dans les pads?
Ah, j'ai gagné un prize. Ah, 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 ah. Oh. Ben, tu sais, t'achètes des polos de l'or, je veux dire, bon.
Ouais, bon. C'est, ça va, ouais.
Finalement, ça n'a pas été un gros débat.
Non, on était relativement d'accord.
Il n'y a pas eu du métage, ça y est, là.
Non, trop loin.
Qui s'en vient?
Ben, il va s'en venir Blast and Child. Ouais, oh. Une belle transition. Oh! Fait que. Ouais. Fait que pour mon bloc, moi, j'ai essayé de faire une émission japonaise aujourd'hui. C'est que tous mes groupes viennent du Japon.
Ah ouais?
Il y a un ou deux groupes là, qu'on pourrait m'accuser de. C'est pas tout à fait du métal. Pour une fois que c'est moi qui triche.
On te pardonne.
Mmh.
T'as le droit.
On va entendre Blast and Child pour ouvrir le bloc. Ils ont sorti un single en 2021 qui s'appelle 2045. C'est de ça qu'on va écouter. Et le chanteur Sadou est de retour dans le groupe. Il avait été là même pour l'album juste avant, que je ne me rappelle plus du nom. Mais c'est un vieux chanteur du groupe qui était sur leur troisième album ou quatrième album. Il s'était poussé. C'est un grand fan d'Anders Frieden Flames. Et là, il est de retour. Puis moi, j'ai bien aimé la pièce. Le groupe se dit comme du RPG metal, je crois. Donc, tirez vos propres conclusions. Mais c'est un groupe solide qui a changé beaucoup quand tu suis le début de sa carrière, du ce que c'était un son très, très black, mais avec un clavier très fantasy, jusqu'à ce que vous allez entendre là, qui est à des années-lumière du black.
Moi, j'aimais mieux quand il y avait un vocal féminin... Dans le groupe, il y a même des bouts de ce tune-là. Je me disais, tu sais, le vocal est correct, mais quand il tombe sur le clean ou tout le kit, ah, ça aurait été cool avec une fille, mais bon. C'est bien ce qu'on peut leur reprocher, mais c'est un groupe qui a changé, c'est ça, énormément. Puis ça reste quand même très intéressant.
Et après ça, on va aller écouter un groupe un peu moins intéressant. Le groupe Crossfade. La tune, c'est Stars Fade in Slow Motion. C'est l'album de Dream the Space. Qui était leur tout premier album en 2011. Le groupe a été adé sur Metal Archive à cause de ce qu'ils ont fait avant 2012. Donc, on est correct, parce qu'après ça, ils sont plus considérés nu metal et compagnie. La grosse faiblesse du groupe, j'ai toujours trouvé que c'était le vocal. Là. Il s'appelle Kevin, c'est un Kevin japonais, c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est ça qui fait que c'est un petit peu moins convaincant. Ils aiment les clips qui se passent avec des chars, de la drift, des bars, puis ça danse. Là, c'est que, une musique de cool. Party Boy, mais un peu moins pour le premier album. Donc, c'est ça pour Crossfade. Quand même, ils ont signé sur Sony. C'est qu'ils sont disponibles dans tous les bons Sunrise ou HMV. Si votre HMV n'est pas au courant qui aurait dû fermer. Donc...
La notice est dans mal.
Il n'a pas checké.
Le propriétaire, il ne check pas ça mal. Il dit, tant que je ne check pas mal, j'ai une job.
Il fait ça comme un autre. Ça va au Japon.
Thank you.
Je me rappelais de nos émissions du matin dernièrement.
C'est ça. Non, là, c'est correct, c'est le soir, Rester. On peut arrêter d'être ça. Joyeux.
De faire semblant. Non, on vient d'entendre Dear and Grey, la pièce The Third Empire tirée de l'album Vulgar en 2003. Là, j'ai triché un peu. C'est un groupe de Visual Kei qui est pas du métal du tout. Là. C'est plus un ton. Tu sais, ça, sur le rock, je connais pas tant le Visual Kei. Je sais que Dee est un expert.
J'ai fait mon bac en Visual Kei.
Mais non, c'est un groupe que je connais depuis longtemps. Ils ont des vidéoclips parfois douteux, étranges ou choquants. C'est bien comme musique. J'avais découvert ça à l'époque, quand je travaillais de nuit et que j'étais jeune et innocent. Quand j'arrivais à la maison le matin, je ramassais mon ordinateur et je chattais avec du monde qui n'était pas au Canada parce que le monde travaillait. Tandis que moi, je tombais d'une plage horreur. Ça prenait du bon d'ailleurs. Et c'est une Chinoise qui m'avait fait découvrir ce groupe. Qui, elle était très, très fan de Visual Kei. Elle m'avait parlé d'un paquet d'autres groupes, mais c'est le groupe qui m'avait accroché. Les autres, j'ai oublié, avec le ton, de qui il s'agissait. Voilà.
C'était de la merde.
Peut-être. On en voudrait toujours plus. Ouais, dis, t'es pas un fan de Visual Kei, toi.
Ben, il faut qu'il y ait des chants féminins. Quand il y a des chants féminins, c'est déjà beaucoup plus facile. Je me dis, quitte à pas avoir de virilité, mais moi donc quoi qu'il n'est pas supposé d'en avoir, ça va moins me gosser. Mais non, ça dépend quoi. C'est un peu comme le power, en fait. Là, c'est juste le vocal qui va venir me gosser. Fait que, mais j'ai pas approfondi le style plus que ça, non.
Bref. Hey, les amis, OD est fini. Fait que OD occupation double. Fait que je sais que ça vous intéresse.
Non, je savais même pas que ça avait commencé.
Ben, tu sais, j'en ai parlé.
Ça joue encore, émissions. Ça. Ouais, on a...
Non, mais là, ça joue plus, c'est fini. Là. Fait que là, tu sais, vous allez pouvoir vous poser vos questions là, sur qu'est-ce qui s'est passé, qui est quoi. J'attends avec impatience pour répondre.
Ben, ils ont fait combien de coutures, là?
moi, je dirais qu'il y a au moins trois couples. Deux couples qui marchent pas pire. Ben, c'est deux coups sûrs. Dont le couple gagnant.
OK, ben, en fait, moi, je suis juste en train de faire une introspection parce que je me dis, avec la famille de patineux que j'ai, pourquoi que ça ne m'intéresse pas, ça? Ça, c'est pas normal. Je veux dire, je serais supposé être assis devant ça, là, c'est du potin, puis c'est de... Non, je comprends pas pourquoi que...
C'est pas du potin, c'est de la télé-réalité.
Ouais, non, mais c'est la même chose. Là. Ah ouais, mais là, l'autre, il a parlé dans le dos de elle, puis là, ah, vas-tu, il dit oui. Ah ouais, mais là, elle a ses potes à l'affaire, hein, se fait avoir. C'est carrément ça, là, c'est du wearage, là.
Mm-hmm. Fait que... Ben, c'est rigolo. Il y a une heure de vérité qui était triste. Ben non, on a manqué un grand bout, là. Ça partout. Je lisais un chroniqueur sur la presse qui parlait de Occupation double un peu à toutes les semaines. Puis il disait cette année, là, les gars, ils ont fait dans le drame. Là. Tu sais, les gars, cette année, ça pleurait. Et visiblement, ils avaient reçu des ordres du casting, de la direction. Pleurer, il faut que ça pleure. Puis il y en a un là, il disait. Même quand que c'est sûr qu'il s'en va, cette semaine, toi, on t'élimine, c'est fini. Tout le monde le sait, mais tout le monde accueille la nouvelle comme une mise à mort ou une maladie incurable en phase terminale. Puis là, pendant qu'il pleure, il dit à son bro, t'es un soleil.
Un soleil.
Ah ouais, non, mais c'était juste des affaires de même. Puis il y en a qui pleuraient, puis l'autre vient le voir, puis il se met à pleurer, puis il dit, tu sais, j'ai le goût de pleurer parce que c'est tellement cool de vous voir pleurer. Puis là, ils sont tous là en... Les filles, quand les filles voyaient les images de ça, les filles étaient crampées, mais ils disaient, mais sont donc bien, maman. Ben, tu sais, on se comprend, mais c'était intense. Je veux dire, c'était ridicule, là, cette année, là, à quel point que les bros se tenaient entre eux autres pour pleurer. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est la deuxième fois que je l'écoute au dé, là, pour dire aussi. Là, mais...
Okay, y a-tu une personnalité gagnant ou pas qui a transpercé l'écran là, et qui est vouée à une grande carrière télévisuelle?
Il y en a deux, je dirais. Il y a une fille qui elle a eu beaucoup, beaucoup de temps d'antenne pour trois semaines qu'elle était là. Elle s'appelait Jenny. Quand elle est rentrée, nous autres, dans le fond, on écoute ça en gang, ça constait tout pris des notes, c'est concurrent avec nos premiers, t'sais, nos critères méchants, là, de, t'sais, on juge le monde puis tout. Puis elle, bon, à part à être un peu comme la chanteuse de Elaine, là, on trouvait que c'était bah ben, mais finalement, elle a eu beaucoup de temps, elle est une bonne vivante, elle est entertainer, elle était le fun. Fait que je pense qu'on va peut-être la revoir plus tard parce qu'on a vu qu'il y avait une genre de connexion avec Julie Schneider en plus. Puis le gars qui a été le coup de cœur du public, c'est parce qu'il savait qu'on peut aller voter pour un coup de cœur là-dedans. Puis je pense qu'il méritait. Il a donné un bon show. Il a été drette du début à la fin. C'est tout ce qu'on a vu, je veux dire, à caméra, puis tu sais, l'opinion de tout le monde. Il n'a jamais parlé contre personne. Il s'est toujours mêlé de ses affaires. Il n'a pas gamé, vraiment. Il y en a gros qui vont là pour gamer. Puis il était le fun, il était game, il faisait le clown. Puis finalement, il s'est rendu en finale. Il n'a pas gagné, mais il a eu le coup de cœur du public. Peut-être, je ne suis pas sûr si c'est son genre de domaine. Je pense que c'est un entrepreneur en construction de quoi de même. Là, je suis pas sûr de ce qu'il fait dans la vie. Mais il pourrait avoir une personnalité à faire un genre de Dave Morissette là, ou André Roy. Là, je le verrais bien faire ça.
Déjà qu'il y a une personnalité, c'est un bon départ pour un candidat d'occupation
double. Non, ils ont tous des personnalités. Il y en avait un qui était super timide. Il y avait un gros tatouage là, de la Floride sur le chest, mais il était ultra, ultra timide. Lui et la fille qui essaie de se matcher ensemble, ben, ils sont encore ensemble. C'était malaisant de les voir avoir des malaises entre eux autres tellement qu'ils ne faisaient rien. Là. Donc, non, il y en a une personnalité. Il y avait une qui était spéciale. Là. Elle avait passé l'entrevue de sélection dans un bain. Elle était habillée dans son bain. Là. Mais pourquoi dans un bain?
Pourquoi pas?
Ben, elle a quand même été éclairée. Mais il y avait des personnalités dommage. Connues cette année. Il y avait deux personnalités connues. Il y avait Chose, là. Antoine. Excusez. Antoine, c'est le fils de Mesmer. Un des fils de Mesmer. L'hypnotiseur.
Ah, oui.
Puis il fait des shows aussi, dans le fond. Lui, il fait déjà de la scène avec son frère. Puis ça s'appelle les jumeaux-ptiseurs. Je sais pas. Il y a un genre de jeu de mots plates dans leur affaire. Il y a aussi le gagnant. C'est un athlète professionnel. Il a eu une blessure. Il n'avait pas pu se qualifier pour les derniers Jeux olympiques à cause d'une blessure. Mais il était d'un finaliste pour le saut en longueur. Il y avait une fille, elle s'appelait Claudel, mannequin, elle est chanteuse, c'est l'ex à Steve, pas à Steve, mais à Christian Bégin, non pas Christian Bégin, Claude Bégin, le chanteur. Fait que, il y avait comme du monde de même un peu plus, là, qui eux aussi veulent trouver l'âme sœur. Finalement, Antoine, lui, il est parti le premier parce qu'il se pognait avec un gars là, à cause qu'il faisait cuire du poulet dans le toaster.
J'avoue que c'est un move questionnaire. Ça, puis du bioterrorisme, c'est similaire.
Mais c'est un des sujets de gros chicanes cette année, ça. Là.
Ah ouais?
Ouais. Fait que tu peux vous dire que l'heure de vérité, il s'est pas passé grand-chose là.
Bon. Fait que, incroyable. Est-ce qu'il y aura une autre saison?
Oui, puis c'est encore Jay du Temple qui a été renouvelé pour une sixième année. Déjà que le temps passe vite, mon Dieu. Il y avait des cheveux, il n'y en a plus maintenant.
comme le temps passe.
Mais Jay du Temple, comme animateur, il est bon. Il est quand même solide. Là. Je l'aimais bien comme personne humoriste que j'ai vu. Parce que je dis personne, parce que je l'ai vu dans des entrevues, mettons, plus... Dans une cave à vin, dans un bain avec José Lito Michaud, genre, là. Des trucs de même. Des entrevues de profondeur. C'est ce qu'il n'y a pas à OD, là.
All right. Bon, ben, merci pour ce récapitulatif.
Ça fait plaisir.
Pour ceux qui ont manqué la saison et qui n'ont pas l'intention de l'écouter, on a au moins le récapitulatif.
Ouais, comme ça, tu vas avoir de quoi dire dans tes parties de Noël. Là.
C'est ça.
Tu vas pouvoir dire, ouais, un tel, ouais, il faisait du Antoine, ski, ouais, je sais de quoi tu parles.
Non, il y avait un tatouage sur le chest.
Ouais, poulet dans le toaster, pas fort.
Ouais. En réalité, c'est parce que c'est un paysage de où ce qui est né. En Floride, il vient, ouais.
C'est romantique.
Moi, je m'imaginais tellement écrit... Floride avec un soleil, tu sais.
Alors, il s'est
The Sunshine
fait,
State.
Les contours de l'État.
Duh. Moi, j'imaginais une belle image de plaque de char, là, mais bon.
Ou chanteur Florida.
Fait que t'as-tu un bloc pour nous? On dit en lutin D maintenant.
Ouais, oui. Lutin D on the floor. Moi, j'ai un triplé vocal féminin.
En parlant de
dans
ça.
Dans le fond, j'ai mis une pièce du band Infected Rain. J'ai pogné ça en vidéo clip. Je trouvais la pièce intéressante. L'album est à paraître en 2022.
C'est-tu oui. Le clip qui a des motocross?
Non.
OK.
Non, je fais ça. Attends, le clip avec des motocross. Non.
OK.
C'est ça. C'est la pièce, c'est Post-Mortem Partie 1. Un band moldave. Moi, à part Mariaku.
Mariaku?
Non, c'est pas. Oh, qui vient de Moldavie? Ozone?
Ah oui, Ozone.
Ben, c'est ça, je connaissais pas grand, d'autres bands qui viennent de Moldavie, donc.
Même eux autres ne doivent pas savoir qu'ils sont moldaves.
Ouais, je sais pas, ils pensent qu'ils sont transnistriens, puis. C'est ça. Puis sinon, le pays juste à côté, Ukraine, Ginger, sorti un nouvel album en 2021. J'ai écouté ça en fin de semaine, j'ai bien aimé. J'ai décidé d'y aller avec le single pour ne pas être original. J'ai choisi la pièce Vortex. Puis c'est ça qui est ça. Fait qu'on s'en va dans vieux pays de l'Est. C'est une fin de l'enfant. Je me promenais dans des trucs musicaux, j'ai trébuché, je suis tombé sur Enemy Inside, tiré d'un nouvel album sorti en 2021. L'album Seven, je pense que c'est leur deuxième album, ils appellent ça Seven.
C'est leur septième tentative.
Ouais, la pièce Release Me.
c'est clairement ça! Ah, c'est la pièce, c'est pas l'album!
Non!
L'album Seth, Release Me, finally.
Mm-hmm.
Please.
Ok, c'est ça. C'est un band allemand. Côté très très pop dans le vocal. Fait que en écoutant l'album, je trouvais qu'à un moment donné, ça venait redondant, mais sinon, il y a de très très bonnes pièces là-dessus. Et puis une très bonne ambiance d'album.
Ça n'a pas réussi à relever ton petit défi, malheureusement.
Mon défi de.
D'avoir trois bandes de chant féminin, pas moldave, là, mais de vieille Europe de l'Est, d'ancien bloc russe.
Non, c'est ça. Non, ben, j'aurais pu mettre Arcona, mais bon, ça, c'est ça, ça me tentait moins. Puis c'est ça, je trébuchais là-dessus, je trouvais que ça fitait. Puis,
C'est ça l'important. C'est nous, lutins, bon. Là, on se met un plan, là, puis après ça, on crisse au vidange ce plan-là, puis on passe à un autre plan. Puis finalement, ouais. On revient au premier, en ayant oublié ce qu'il y avait dessus. Mais c'est pas grave.
Là, il est tout taché de vieux vidange, fait que ça fait de l'à peu près.
Ça donne ce que ça donne.
C'est ça qui est. Nous autres, les lutins, quand on travaille au Père Noël, ils trouvent qu'on est justement très, très pointilleux, minutieux. En tout cas, nous, les détails, on laisse rien au hasard.
Mm-hmm.
On sait où est-ce qu'on s'en va. Hey, j'ai pogné de quoi? J'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce qui est sorti le 3 décembre 1996?
Oh shit. Un album de Limp Bizkit.
T'es pas loin.
Mm.
C'est un album.
Un album de Rage Against the Machine.
Non. Peut-être.
96 dans le gros nous mettant.
Un indice.
Ouais. Un indice, oui.
On appelait ça BST.
BST. Bacon, salade, tomate. Non, ça c'est BLT. Ça marche pas.
Ouais. C'est une compilation éditée par Universal.
Big Shiny Tunes!
Ok, oh. Oui, et voilà. Donc,
yes.
T'es allé checker, hein?
Non, même pas. Même pas, je te jure. Parole de scout.
Oh. Ouais, il y avait eu un petit, sur la presse, une petite chronique de notre collègue journaliste Charles-Éric Blais-Poulin qui... Ça fait 25 ans déjà, Big Shiny Toon. Ça avait été un gros succès. Ça a duré jusqu'en 2009. Quand même.
Quand même. Shit, quand même.
Dans mon oui, cœur et dans ma tête, c'est arrêté au 2.
Ouais, c'est ça. Je me souviens exclusivement du 2.
Mais là, il avait pogné beaucoup. Puis, comme il disait, ce qui est intéressant des Big Shiny Toons, c'est qu'il y avait plusieurs compagnies 10 qui envoyaient ensemble, dans le fond, ce qui était rare à l'époque, faire une compile. Puis, seulement, c'est la compagnie 10 qui lance une compile. Vu que c'était initié par Mos Music et Music Plus. Puis là-dedans, en plus, il y avait souvent des gros tubes interplanétaires, mais avec des artistes canadiens un peu plus underground qu'ils ont eu du succès, finalement, grâce à Big Shiny Toon, parce que ça a très bien vendu. Il dit le deuxième, il s'est écoulé à 1 233 000 copies pour une compile avec Brand Van 3000 dessus, là, qui côtoyait Blur, ouais. Smash Mouth, Radiohead.
Marilyn Manson.
J'ai jamais eu de Big Shiny Toon. J'en ai souvent voulu, là, je trouvais que ça avait l'air cool, le kit, mais puis il y a déjà des gens qui m'en ont prêté, mais j'en ai jamais acheté. J'aurais dû, ouais, ça manque à ma culture. Maintenant que j'ai envie d'écouter une toune de Matthew Goodband, ben je peux pas parce que j'ai pas de Big Shiny Toon.
Ben tu peux pas juste écouter du Matthew Goodband?
Ben non, j'ai pas acheté l'album, il est juste cette toune-là, j'aime.
Bon, mais tu peux l'écouter sur Spot?
Oui, mais pas aller. Non, on sait quoi, ce Spot. Là tu parles au gars là, de 16-17 ans. Donne-nous-les MP3.
Ils ont-tu les Big Shiny Toons sur Spotify? Ah, ben j'en vois quelques-uns quand même.
Ouais, peut-être 14, des gens qui ont refait 12. Des comptes, qui ont fait une playlist de vieux Big Shiny. Ouais.
Ouais.
Alexis on Fire, no doubt. Ouais. Non, c'est. C'est marquant, Big Shiny Toon. Mais le 2, surtout, j'avoue, c'est quasiment le seul que je me rappelle, mais je me rappelle que c'était très marquant. D'ailleurs, ma compilation s'appelle Best Toons. J'ai pas du tout oublié.
Mais ça, non, ils disent, malheureusement, c'est difficile aujourd'hui, vu qu'avec les médias, le fond, Spotify et compagnie, tu peux vraiment toujours aller chercher ce que tu veux. Puis ils vont proposer des trucs dans ce que t'aimes. Ça qui dit, à moins d'être un vrai tripeux, c'est plus ou moins pertinent des compiles parce que t'as pas le goût de te faire nécessairement pousser des nouveaux tubes dans l'oreille. Je trouve ça bizarre, la manière qu'il disait ça, de dire que des compiles, c'est plus pertinent. Le média est peut-être plus très pertinent, mais des compiles comme Best Tunes, c'est encore très pertinent du moment qu'ils sont partagés et rendus publics.
Mais en même temps, je comprends que tu as une espèce de phénomène de bulle, tu sais. T'sais, si t'écoutes toujours la même chose, pis ça se peut que quelque chose de complètement différent soit un peu rébarbatif. Tandis que nous, si on avait Marilyn Manson, puis on pogne une toune de Brand Van 3000, ben t'sais, c'est le fun. T'sais. Il me semble à l'époque, on était plus ouvert que.
Ben, moi, dans mon cas, les deux sont dans. J'ai les deux artistes dans une de mes compiles, puis c'est dans ma compile de centre d'achat. Donc. Manson côtoie très bien Brandon.
Mais tu sais, dans les médias modernes, que tout est plus compartimenté un peu. C'est peut-être plus tough à faire là, ce que Big Shiny Toons faisait à l'époque. Tristement, d'ailleurs.
Mm-hmm. Ben, sans l'apport des vidéoclips et des Much Music MTV, probablement, ça n'aurait jamais vu le jour non plus. Là. Fait que c'est ça.
Une belle époque. Faudra faire un spécial Big Shiny Toons 2. Juste des. Ben, pas Big Shiny Toons 2, mais. Juste des tunes qui ont été sur Big Shiny Toons.
Deux.
On va faire ça. Ça permettrait de parler de ma douce adolescence bercée par Musique Plus.
Ouais, à suivre pour la saison 2.
Ouais, on va voir. On se lancera pas dans un gros projet de même tout de suite. Là.
Ouais, on a déjà plein d'émissions prévues. Et on va faire une saison 3, c'est sûr. On a déjà trop de sujets.
Ouais, en effet. On va vous parler des Canadiens. OD la prochaine saison. Tout ça est bien plus.
Fait que moi, je vais boire beaucoup d'eau, puis je ferai des grosses pipis.
Mais pour l'instant, pour clore la saison, ben pas pour clore, mais dans les derniers segments de la saison 1, je vous ai préparé un bloc local, un bloc forêt. Si vous connaissez le bassiste Dominique Lapointe, also known as Forêt.
Non, c'est pas son nom de famille.
Non, je sais aucune idée d'où ça vient, ce surnom-là. Ça n'a rien à voir avec son vrai nom, mais voilà. Il s'appelle Dominique Lapointe, puis il se fait appeler Forêt, semble-t-il.
C'est peut-être son deuxième nom de famille.
Ah, peut-être.
Ou son deuxième prénom, tu sais, Joseph Forêt Dominique.
Tout le monde de Joseph, fait que Joseph est là, c'est sûr. Est-ce que Forêt est là, ça, on ne le sait pas.
Son parrain s'appelle Forêt. Son parrain, c'est un ant.
On va demander à nos collègues journalistes là, d'investiguer.
Ils vont aller avec le récapteur TVA, là.
Survoler son appart. Ouais. Bref, monsieur Forêt, je l'ai découvert récemment, mais dans le fond, il était là tout ce temps-là, on le savait juste pas. J'ai porté une attention particulière à son existence dans le groupe First Fragment que j'ai découvert récemment. Évidemment, je l'ai mis sur Bestoons, c'est à suivre. mais First Fragment a été formé en 2007. Ils n'ont que deux albums à leur effectif, mais c'est vraiment, je sais pas si vous avez aimé, mais c'est quand même très bon. J'ai
trouvé ça, c'est la grosse coche. Des notes par de. C'est du bon technique comme seul le Québécois. Les Québécois savent le faire.
Comme Didi, c'est du bon technique un peu. Tu sais, comme on parlait la semaine passée avec des bandes à la Flèche God Apocalypse, c'est du technique, mais qui se tient puis qui fait une belle mélodie. First Fragment, ils sont arrivés vraiment de façon superbe. Ils ont même, quand on écoute l'album, ils ont même des segments de guitare sèche un peu flamenco. Qui incorpore évidemment leur style gros death, fait que c'est vraiment très très bon. Puis on entend super bien la bass de Monsieur Forêt. C'est une pièce qui s'appelle La Veuve et le Martyr. Tout l'album est en français. Évidemment, on l'entend plus ou moins bien dans le style vocal, mais c'est l'intention qui compte.
Ben oui.
Fait que La Veuve et le Martyr, le plus récent projet de mon ami Forêt. Et ensuite, ce sera suivi de son... J'étais allé en ordre chronologique. Fait qu'en 2018, il a sorti un album avec Augury, qu'on connaît quand même assez bien.
Ah ouais. Déjà vu ça en show, Augury.
Augury, oui, une couple de fois.
Mais ça a changé beaucoup dans le style, me semble. Avant, c'était plus un gars-fille avec, qui chantait. Il y avait une fille là-dedans, puis ça chantait plus mélodique.
Toujours assez impressionnant de les voir aller.
Ben, c'était meilleur aux Gurry quand ils sont débarrassés de leur premier style, je pense. Je pense que c'était moins intéressant avant, puis c'est devenu plus intéressant par après, là.
Ouais. Mais, ouais. Fait que voilà, Augury, ce sera précédé de First Fragment et porter une attention particulière à la base de Dominique Lapointe. Je trouve que c'est un son qu'on retrouve pas souvent, mais qui est très intéressant.
Mm-hmm.
Fait qu'on écoute ça au lutin.
Bon enfant.
Et on vient d'entendre le projet sous les applaudissements nourris de la foule. On vient d'entendre l'album de 2014 de Dominique Lapointe qui a fait cette fois avec le groupe Beyond Creation. Ce groupe a trois albums à leur actif et c'était la pièce Sous la lueur de l'Empereur. Je l'avais pas dit, mais avec Augury, c'était la pièce Elusive Golden Age de l'album Elusive Golden Age. Puis ça, c'est Beyond Creation, Sous la lueur de l'Empereur, avec l'album Earthborn Evolution. Tout l'album n'est pas en français cette fois, mais celle-là l'était, fait que je l'ai mis pour encourager la chose. Forêt a joint le band pour le démo et pour les deux premiers albums. Après ça, il a quitté parce qu'ils ont fait le troisième album en même temps qu'Augury, fait que j'imagine qu'il y avait priorité pour Augury. C'est un band qui a l'air un peu à mi-chemin entre First Fragment et Augury. Ils sont pas aussi mélodieux que First Fragment, mais un peu plus qu'Augury. J'ai quand même bien aimé. C'était un peu moins virtuose comme basse, mais bien présente à travers toute la pièce. J'aime bien son son. Fait que, ouais.
Ouais, un son, moi je trouvais que ça venait un peu plus jazzy côté sonorité de bass.
Ouais, exact. très bon. J'espère que je vous ai donné envie d'écouter un peu plus.
Oui, moi, Monsieur en fait, Lambert. J'ai fait ça, puis je me dis, Colin, je creuse pas assez au Québec. C'est sûr que tu sais le gros dette, c'est pas mon style préféré non plus, fait que c'est notre spécialité, fait que j'ai un peu moins tendance à creuser, mais First Fragment, j'ai mis ça dans mes listes de trucs à écouter. Je vais sûrement approfondir ça. C'est très bon bloc.
C'est vrai qu'on excelle dans le gros dette, si.
J'ai une petite question pour vous autres, messieurs.
Vas-y, fort.
Vas-y.
On voit de plus en plus de shows.
Ouais.
Ici et là, puis là, moi, je me disais, Krim, avez-vous peur d'acheter des billets? Parce qu'on s'entend que si la situation change, ben, tu sais, tu restes pogné avec ou tu te rembourses ou tu sais, ça va être reporté. Fait qu'avez-vous peur d'acheter des billets puis dites, ah, oh, je vais attendre plus proche de la date?
Ben, personnellement, je dois avouer que j'avais déjà des billets avant que la pandémie frappe. J'ai vraiment eu des bonnes expériences, là, soit avec Ticketmaster ou il y en avait un autre aussi que j'avais utilisé. J'ai eu que des bonnes expériences, là, soit que c'est reporté, soit comme dans le cas de Megadeth, c'est encore postponed. Fait que t'as encore ton billet, mais il n'y a pas de date. Mais ceux qui ont été remboursés, j'ai eu le remboursement. J'ai vraiment eu aucun problème. Fait que dans cette optique-là, j'ai aucune crainte à me procurer des billets, sachant qu'il n'y a pas d'enjeu pour les remboursements ou pour les reportements, les reportages, les reportements.
Ouais, c'est pas comme ça serait le Rockfest, mettons, là.
Ça, je sais pas.
Mais moi, ce qui me fait un peu peur, tu sais, c'est dans, mettons, dans un de un, c'est que Rammstein, ça fait 2 ans j'ai mon billet, ça fait 2 ans je l'ai payé, tu sais, puis j'ai pas... OK, oui, je vais peut-être voir Rammstein un jour avec ça, mais tu sais, moi, en fait, c'est plus l'investissement de dire, OK, je vais acheter un billet, je mets de l'argent là-dessus, puis, ben, c'est ça. S'il l'annule, ben oui, je vais être remboursé. S'il le reporte, ben, je ne serai pas remboursé. Puis s'il met ça d'une date que je peux pas ou que ça donne moins bien, ben là, je suis un petit peu pogné avec, il faut que je le revende. Là.
Mais quand il reporte, tu as l'option habituellement de demander le remboursement.
Ah ouais?
Me semble.
Moi, je n'avais pas de billet, j'ai pas peur. Moi, je vais avec le bouche à oreille pour réussir à rentrer, à me faufiler dans les shows tout le temps. Tu sais, je suis un lutin. Ça fait que je lance des cannes de bonbons d'un bord, le doorman, check, et voilà. Je suis rentré, prêt à trasher.
Je pensais que Pépito te trouvait une petite cachette vu que t'es pas très grand. Puis,
Non, me tiens pas avec Pépito.
Non.
Non,
parce que des burnes de lutin, c'est toujours poli. On n'a pas besoin d'avoir Pépito.
C'est poli dans la magie.
Ouais, c'est ça. La magie de Noël nous polie les burnes.
J'ai vraiment hâte de retourner voir des shows. Fait que mon standard a vraiment beaucoup baissé. Là. J'ai des billets pour Nightwish.
T'es charmant! T'es sérieux, là?
Oui! J'ai vu Nightwish au MTELUS. Ah, de la merde, j'y vais, je m'en fous.
Arc! Dommage.
Ça va être nostalgique au moins. Là. Fait que. Ah non, j'ai vraiment hâte de voir des spectacles.
Et j'ai beau être en manque de shows, j'irai voir Alain Morisot et Sweet People, mais pas Nightwish. J'aurais aimé ça Nightwish dans le temps que Taria était là, mais.
Ah, puis moi, toutes les shows que j'ai vues de l'époque étaient là, c'était plus ou moins intéressant en show. J'ai jamais vu Nightwish en show, puis ça me manque pas. Surtout plus aujourd'hui.
Je les avais vus au Heavy, mais je sais pas ce qui est arrivé. Les yeux étaient tellement mis à me piquer, là, j'ai pas vu la moitié du show.
Puis elle, la gueule.
Peut-être. Aucune idée de ce qui est arrivé là. Si tu as un effet pyrotechnique, mais j'étais le seul, c'est pas comme si la moitié de la foule était aveuglée. Ok, je sais pas.
Floor smashant, le monde
Ah!
Le fond!
Les yeux
tout le monde, les yeux pétants.
Ah, c'est le chanteur d'Exodus qui a fait une. qui était là en cachette.
Le chanteur d'Exodus fait bouillir ta bière. Puis la chanteuse de Nightwish te donne une conjonctivite en chantant.
Elle fait bouillir ton humeur aqueuse.
Fait qu'une tournée Exodus, Nightwish, de la bonne bière chaude, des yeux qui piquent.
Avis au promoteur.
Un bon slogan, ça. Avis au promoteur, certain. Ben, on parle de chanteuse. Mon prochain band est avec une chanteuse. Avec la jeune Tokiko Shimamoto. Le groupe, toujours du Japon, s'appelle Shadow. À l'époque, sur Napster, ben pas Napster, mais les trucs qui ont comme un peu remplacé ça, comme Emule. Juste Shadow, c'était compliqué à trouver. Puis l'album s'appelait Shadow. C'était encore pas évident à trouver. Malheureusement, cet album-là, qui est super, super bon, du très bon death suédois japonais, n'est pas disponible sur Spotify. Il était paru en 2001, mais ils ont sorti un deuxième album, le groupe, en 2008, qui s'appelle Forever Chaos, qui est, je trouve, moins bon. Je pense qu'il est quand même plus travaillé, meilleure production, mais j'avais même mieux le premier. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va entendre la pièce Before True Light de cet album. Mais le groupe existe encore.
C'est quand même rare, une chanteuse féminine dans le growl. Je sais que ça nous avait assez impressionnés pour en parler. Là. On n'en trouvait pas tant que ça. Là. C'est un peu avant.
J'ai encore le CD en vrai. Ben ça, en 2001, Angela est rentré en pas mal 2001-2002. C'est que... Non, j'ai encore le CD. C'est un CD que je garde. Je ne me départis pas avec une pochette, ma foi, affreuse. Mais bon, c'est que c'est ça. Et sinon, on va rester au Japon, mais avec de quoi de plus violent, le groupe Intestine Baalism, l'album Banquet in Darkness, qui était paru en 2003, c'était leur deuxième album. Sur Spotify, il n'y a que les deux premiers albums disponibles, le troisième et dernier album du groupe n'y est pas, mais c'est un groupe solide, je suis allé regarder les reviews, et sur les trois albums, ils sont tous cotés en haut de 90, et la pièce qu'on va entendre, Banquet in Darkness, l'album est quand même raté à 97, puis c'est pas par juste une seule critique, là. Il y a quand même quelques critiques. Donc, très bonne moyenne. Très bon groupe. Je me rappelle qu'à l'époque, ça m'arrivait des fois de communiquer avec des groupes juste pour leur dire salut, j'écoute votre muse, puis je trouve ça cool. J'avais communiqué avec le bassiste, je crois, de Banquet in Darkness. Toujours des bassistes qui sont facilement accessibles via les médias sociaux. Via MySpace à l'époque, puis ça a pas leur dire que j'aimais ça, puis je restais au Québec, puis que les autres ne savaient pas c'était où le Canada. Tout était cool. Conversation enrichissante.
Mm-hmm.
Marquante.
Donc, c'est ça. On va entendre Intestine Baalism, mais juste avant Shadow avec la petite Tokiko. On vient d'entendre Gilgamesh avec la pièce Gravitation tirée du micro-album Gravitation paru en 2014. Fait fascinant. C'est pas du métal. Encore une fois, c'est un groupe de Visual Kai. C'est dur à trouver d'informations en tant que tel. Je suis allé sur Wikipédia puis cet album-là n'est même pas sur Wikipédia. Fait que, ils ont l'album d'après.
Tu pourrais éditer la page?
De quoi?
Tu pourrais éditer la page puis l'ajouter.
Non, ça, je suis pas un éditeur. Oui, c'est ça le but de Wikipédia, mais non. Regarde, moi, je sais des choses que Wikipédia ne sait pas, là, c'est tout.
Tant pis pour toi et Wikipédia.
Drette ça.
Donc, j'ai fait la recherche, je trouve des affaires que... Moi, tout des fois, ça m'arrive, genre, je pourrais l'ajouter, il l'a pas. Genre, j'ai fait la recherche, ça arrangeront bien. C'est pas smart, dans le fond, tu sais.
Mais pas grand chose à dire sur le groupe. J'ai pas écouté leur discographie, j'ai écouté ce single-là. Je l'ai vu passer dans mes vidéoclips cette semaine à la maison. Donc, genre, c'est vrai, c'est bon ça. Et c'est de là qu'est parti mon idée de faire un bloc japonais. Et finalement, ça se transforme en deux blocs japonais. Parce qu'au départ, c'était de la musique de Noël, je voulais mettre.
Ouais.
Tant pis pour la musique de Noël. On en aura en pièce ultra bonus. Juste pour dire. On est allé avec le seul groupe qui a fait un album potable de Noël, je pense August Burns Red.
Ben c'est parce que c'est instrumental, c'est déjà une des bonnes raisons pourquoi c'est bon. Oh,
c'est ça. Ok, on vous a mis ça là, pour pas complètement perdre l'esprit des fêtes qui nous habitent tous et toutes.
Mm-hmm. Surtout nous les lutins là, pour les prochaines semaines, car c'est ça.
Ouais.
On est rendu là déjà.
Le grind arrive. Oui. Mais avant de quitter, on a encore une petite toune par rapport pour vous.
Ah, mais là, c'est pas du métal, ça.
Ben non, c'est la toune par rapport.
Oui,
une petite toune par rapport qui est accompagnée d'une recommandation. Si vous avez du temps à perdre pendant vos vacances, j'aime beaucoup les documentaires musicaux sur les bands. J'en ai écouté quelques-uns cette année, comme j'en ai parlé dans d'autres podcasts précédents, dont celui de Kitty. En tout cas, j'en avais écouté une couple. Puis là, je suis tombé sur, tout le monde en parle, mais le documentaire Get Back des Beatles, qui a été fait par Peter Jackson, qui est disponible sur Disney+, si vous êtes abonné. C'est vraiment fascinant, en fait, d'écouter ça, je trouve. La qualité d'image est vraiment écœurante. Ça ressemble vraiment à du HD, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais sur ma grosse TV, ça paraît super bien, puis t'es littéralement dans le studio avec eux.
Ben, c'est la magie de Peter Jackson.
Ben c'est ça, c'est Peter Jackson qui a fait ça. C'est fascinant.
Ça relate toute l'histoire du band ou...
Même, ouais, la shot que Paul a pété sa coche avec une tondeuse dans le studio.
Sur quoi?
Paul, il a pété sa coche, on est un enregistrement légendaire, puis il a sorti la tondeuse, il a pogné 2-3 soundcheck, le soundman, là, puis après ça... Ben, Peter Jackson, il peut pas s'empêcher de mettre un petit peu de gore ici et là. Là.
Ouais, c'est ça. Non, mais en réalité, c'est au début de 1969, ils ont eu une session d'environ 2 semaines. Leur but, c'était de faire un projet télé, puis d'enregistrer un album aussi. Fait que là, dans le fond, il y avait 2 semaines pour composer puis enregistrer le spécial TV. Fait que dans le fond, on est avec eux pendant 2 semaines intensives, en début janvier 1969, donc... Ceux qui sont familiers savent que c'est les derniers moments du band. Et effectivement, là, j'ai juste écouté le premier épisode, puis George Harrison se lève tout bonnement et dit « Bon, ben voilà, je quitte les Beatles. » Et voilà. Fait que ça laisse présager. Il y a quand même 3 autres épisodes. Mais c'est... En tout cas, si vous aimez les documentaires musicaux ou si vous aimez les Beatles... Puis c'est fou, mais en écoutant ça, je me suis rendu compte que avant les Beatles, ça existait pas tant des bands rock comme ça. T'sais, c'était Elvis, c'était du blues, c'était du jazz. Mais c'est vraiment ce band-là qui a... Chuck Berry. Mais tu sais, c'est eux qui ont commencé à faire du mix avec l'arrivée des enregistrements cassettes. Fait que je pense que c'est un band qui a beaucoup évolué aussi. Là. En 1963, ils faisaient du yé-yé. Puis en 1969, ils faisaient des affaires assez pétées, merci. Fait que...
Mais entre 63, on a déjà parlé, entre 63 et 66, ils ont quand même 6 albums. Là. C'était 2 albums par année, les Beatles. C'est ça, donc, c'est... Du yé-yé, il y en a eu longtemps. Là.
Leur carrière a duré 7 ans, puis c'est comme 7 ans qu'ils ont révolutionné la musique. Fait que c'est quand même fascinant de voir ça sur Disney, si vous avez la chance. Puis c'est juste assez long pour que ça soit intime. C'est pas, les coupures sont pas... Et si vous voyez un peu l'image. Fait que je vous invite à écouter ça. Et pour accompagner la chose, ma pièce bidon, pas bidon. Mais qui n'est pas du métal. La pièce n'est pas rapport, voilà. C'est Maxwell's Silver Hammer de l'album Abbey Road en 1969. C'est une pièce qu'on les voit composer justement dans le premier épisode. Puis on les voit avec l'enclume et le marteau. C'est loufoque parce que c'est une petite pièce qui est comme une petite... C'est comme t'as envie de gambader sur cette pièce-là quand t'écoutes la musique, mais t'écoutes les paroles, puis c'est comme un étudiant en médecine qui va qui devient un tueur en série, littéralement. Il va rencontrer quelqu'un, puis il tape la tête avec le marteau. c'est assez loufoque. Fait que Maxwell's Silverhammer, The Beatles, l'album Abbey Road de 69, un de leurs avant-derniers.
Et sur ça, on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Toute l'équipe des lutins, le lutin R également, là, Ricardo, fait un petit bout là, qui se tient tranquille, mais il y avait ben de la pompote à faire. Donc, c'est pour ça qu'il était moins présent.
Ouais, Maman Dion est plus là, hein, fait qu'il fait beaucoup de tartes et de tortillas dans le temps des fêtes.
Ouais, une petite de parenthèse, je sais, la bière de LTM, bière tarte aux pommes tatin, tarte tatin aux pommes, là.
Ouh.
C'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon.
Ben, la bière éphémère de Unibrew est ordinaire aussi, la bière aux pommes. Là, fait que...
Ouais, non, je prends du cid quand je vais boire de quoi d'alcoolisé qui goûte la pomme. Prends pas une bière aux pommes. Ouais. Finalement, la tarte, c'est la même affaire. Faut que je voudrais que je me fasse une vraie tarte tatin. Je la laisse macérer dans le gros gin. Puis là, j'aurai une tarte à mon goût. Fait que sur cette délicieuse recette pour festoyer en famille.
Ouais, merci à tout le monde de nous avoir suivis pour cette première saison. On me dit qu'il y en aura d'autres. On a été signé officiellement.
Ouais, oui.
Alors, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle.
Toujours.
Likez, commentez.
Ouais, on va avoir du feedback autre que des menaces de mort, là.
Ben, au moins une menace de mort.
À un moment donné. Ouais, au moins, c'est ça. Menace de mort, c'est qu'on joint un public cible. Les tueurs en série.
Mm-hmm. Donc, on change pas de public cible, hein, quand on était à Trois-Ris, c'était la prison, fait que...
ça reste.
Quoi, pour rejoindre les tueurs, il faudrait peut-être aller plus dans le hip-hop, là.
Oh, non, ben, préjugé. Oh.
Ben, j'ai une belette ici, là, samedi. Je vais vous retrouver, puis moi, vous tuer mes asties. Donc, voilà.
Bon,
on le salue. Ça va droit au cœur.
All right.
Bon, ben.
Ben, sur ce, joyeux Noël.
Joyeux Gravol.
Buvez un bon lait de poule.
Oh, yeah, 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 yeah.
Une poule, ça a plus 4 ou 6 pétines.
Oh! C'est le cliffhanger de la fin de la saison.
Réponse, prochaine saison.